Donc Julien Després.
Bonjour.
Bonjour. T'es guitariste?
Ouais.
Tu appartiens à ce qu'on peut appeler la jeune génération du jazz français.
Mm-hmm.
Et que le musicien et compositeur Jean-Jacques Birger a appelé récemment les affranchis.
Mm-hmm.
On pourra y revenir.
Mm-hmm.
Tu as une trentaine d'années et tu joues dans beaucoup de groupes différents. Un peu moins d'une dizaine.
Un peu moins, ouais.
Un peu moins d'une dizaine. Groupe de ton initiative.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, est-ce que je suis investi? Il y a des groupes dans lesquels où... C'est souvent des directions collégiales, il y a peu de groupes où je suis vraiment directeur du truc. C'est souvent partagé, mais en gros, ouais, c'est ça, j'ai 5-6 projets dans lesquels j'ai cette fonction-là, et 5-6 autres projets où là, pour le coup, c'est vraiment le côté jazz du truc, t'es sideman, tu te pointes, tu lis la musique, tu la joues surtout avant de la lire. Mais en tout cas, où t'as pas trop ton mot à dire sur la direction artistique. Et c'est très reposant en fait, parce que du coup, quand tu te pointes dans un groupe et que tu dois assumer ce côté de direction artistique, c'est vraiment toute partie du travail, tu dois tout gérer, tout penser. Et du coup, d'arriver dans des groupes où t'as pas du tout ça à penser, c'est genre un peu les vacances en fait, d'un seul coup. Parce que t'as juste à jouer et à t'amuser.
La direction collégiale, tu connais aussi, parce qu'en 2008, tu as fondé avec d'autres le collectif Coax,
mm-hmm.
qui est une coopérative de musiciens qui est active en région parisienne.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Active autant sur le plan musical que sur le plan pédagogique.
Ouais, bah ouais. Ouais, parce qu'on a. On a un atelier de musique improvisée à Montreuil, à la Maison Populaire de Montreuil. Du coup, là, c'est vraiment l'atelier de musique parmi les ateliers de saxophone, de jazz, de salsa, de tout ça. Ça nous plaisait pas mal de mettre la musique impro au sein un peu de tout ce bordel de manière très informelle et très parmi les choses, quoi. Voilà, sans que ça soit dans un conservatoire ou un machin. C'est vraiment une école, ouais, voilà, maison populaire, quoi, très populaire. Après, la direction collégiale, ouais, Coax, on est une coopérative de musiciens. Du coup, au sein du collectif, on a tout autant nos projets personnels qu'on construit via le collectif, du coup de manière coopérative, c'est-à-dire qu'on mutualise les moyens, du coup que ce soit les financements, les subventions, tous les contacts pour trouver des concerts, tout ce qui peut nous servir à faire des résidences. On mutualise tout ça. Et de l'autre côté, tu as tout ce qui est action collective, un peu comme le Coax Orchestra, où là, c'est pour le coup, là, t'as quand même un directeur artistique, mais qui se sert de beaucoup d'énergie différente dans le Coax Orchestra, ou aussi bien le dernier truc qu'on a fait à Banlieue Bleue, le Brésil Mashup, où là, pour le coup, en termes de composition, c'est participatif. La plupart des musiciens qui sont présents dans le projet ont trouvé un morceau, ont trouvé des vidéos, ont écrit de la musique. Du coup, après, il s'agissait vraiment d'assembler tout ça de manière logique, ou en tout cas, ouais, si logique, c'est bien. Et d'avoir comme une espèce de patchwork un peu de toutes les différentes sensibilités qu'il y a dans Coax. Du coup, l'activité du collectif est vraiment divisée entre ces deux trucs-là. Les projets personnels, les envies de chacun, qui sont des pratiques assez radicales en général, au sein des groupes, et les pratiques collectives qui font forcément face à un consensus, puisqu'on a tous des sensibilités différentes. Du coup, tu peux pas aller à 300% ici parce que l'autre il va aller là et l'autre il va aller là. Du coup, tout l'enjeu, c'est comment on peut trouver un agencement des choses et toutes ces directions artistiques qui sont quand même communes, hein, mais qui vont quand même pas aux mêmes endroits pour que ça donne une espèce d'œuvre ou de pièce cohérente en tout cas.
Et est-ce que tu dirais du coup que dans ces groupes où la direction est plus collégiale, la musique est moins radicale que dans les groupes qui sont portés par une seule personne?
C'est pas moins radical, je dirais que tout dépend comment on pense la radicalité. Si tu penses la radicalité comme une chose en soi un peu fermée sur elle-même, c'est peut-être moins radical. Si tu penses la radicalité dans le sens où tu t'adresses à des gens, où tu parles, où voilà, tu envoies quelque chose vers quelqu'un, dans ce sens-là, c'est pas moins radical. Je dirais juste que tout ce qui est création collective s'adresse à un public qui est beaucoup plus large,
okay,
que souvent les petites formations. Puisque du coup, comme ça réunit beaucoup de sensibilités différentes et qu'elles sont accolées et qu'on cherche à les mixer pour que ça donne quelque chose de logique, en tout cas, forcément, tu as beaucoup plus de propositions esthétiques au sein d'une même pièce. Tu vois, par exemple, j'ai un trio qui s'appelle Snap, ou même mon solo à Acapulco, ça va vraiment dans une direction, et je travaille autour de ça, mais d'emblée, quand je me retrouve dans un truc collectif, je vais me retrouver à dealer avec les intentions de Fanny Lasfark, par exemple, qui est une bassiste de Coax, qui est carrément beaucoup plus orientée électro, pop ou musique dansante. Et du coup, bon, bah voilà, ça nous fait pas du tout jouer au même endroit. Et par exemple, sur le Brazil Mashup, ce truc-là, ça nous permet de fédérer un plus grand public qui, après, en fait, s'intéresse au collectif et du coup, se retrouve à écouter les groupes et les petites cellules qu'il y a au sein du collectif. En tout cas, on pense vachement de machin comme ça, je pense.
Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ce que c'était que le Brazil Mashup?
Ouais, alors le Brazil Mashup, c'est vraiment parti de l'idée. On se disait, bon, comment on peut questionner un peu la forme du concert, en fait, et la situation aussi. On se pose vachement la question, comme on est toujours identifié pour soi-disant jouer une musique difficile. Nous, on pense que c'est pas du tout le cas. Du coup, on s'est dit comment on peut rendre disponible toutes ces musiques à plus de gens sans pour autant rentrer dans un truc, j'appelle un chanteur de variété et ça va élargir le public. Du coup, la question c'était quel mode d'accès on donne à la musique, en fait. Du coup, là on s'est dit, bah, ce qui serait hyper bien, ça serait de la jouer avec de l'image, parce que tout de suite, ça met les choses dans un autre espace. Tu commences à créer un imaginaire, t'es beaucoup plus clair là-dessus, tandis que quand tu mets pas d'image, voilà, tu peux très bien écouter de la musique, en avoir plein, mais tu laisses tout le monde libre vis-à-vis de ça. Du coup, on s'est dit qu'on voulait faire un truc avec de la vidéo, mais on s'est dit, la forme ciné-concert, c'est un peu bateau quand même. Et on s'est interrogé, on a dit, bon, comment on peut faire un truc où le public, il est au centre de quelque chose et du coup, tu t'immerges pendant une heure et demie au sein d'un dispositif. Du coup, on s'est dit que ce serait super si on faisait un truc avec quatre écrans et le public est vraiment au milieu et la chose est vraiment axée sur les écrans. Tu vois un peu les musiciens, mais voilà, l'idée, c'est pas de mettre l'accent sur les corps, plus sur les vidéos. Comme ça, tu regardes, tu as plein de choses à regarder, tu es vraiment immergé dans un dispositif avec une forme qui est remplie de cuts, où ça, c'est vraiment mash-up. Le mash-up, c'est, je sais pas si tu connais, mais c'est une pratique assez populaire qui vient de YouTube, c'est de mélanger deux vidéos, de les mixer ensemble pour donner lieu à un nouveau mix, voilà, un nouveau truc. Du coup, l'idée, là, voilà, le mash-up, c'était de mélanger un peu toutes ces intentions différentes dans Coax, de les agencer. Et on s'est dit, le Brésil, ce qui était chouette pour l'idée du Brésil, c'est de prendre une image qui est très très éloigné de nous, quelque chose où on ne nous attend pas en fait. Du coup, de créer une nouvelle image pour créer un nouveau rapport avec notre musique. plutôt que de dire on aurait pu prendre, j'en sais rien, de faire ça qu'avec des trucs de cinéma expérimental, la chose sur laquelle on nous aurait attendu de toute façon, ça, je pense que ça aurait pu être le truc logique, on s'est dit on va prendre des images qui n'ont rien à voir, on va vraiment prendre un contre-pied pour créer autre chose. Et on se disait aussi, bon, ce qui serait bien, il faut que la création elle soit collective, donc participative dans l'écriture, collaborative. Et il fallait qu'on trouve un mode de, pour choisir les vidéos, en fait. Quelles vidéos on allait prendre. Et on a tous une pratique vis-à-vis du web. On s'est dit, ce qui serait hyper intéressant, ça serait que tout le monde puisse choisir ses vidéos, trouve le truc, et au final, que de faire le truc avec ce que tout le monde fait tous les jours, c'est-à-dire, bon, bah, je suis sur mon ordi, tiens, elle est pas mal cette vidéo YouTube, puis tu cliques à côté, t'en as une nouvelle. Et petit à petit, tu te retrouves sur un truc qui n'a rien à voir, alors qu'au début, tu regardais, j'en sais rien, un truc de danse, et puis au final, tu te retrouves sur une publicité de bagnole ou un truc comme ça. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va donner une règle du jeu. Les gens, pour trouver leur vidéo, il faut que ça corresponde au hashtag Brésil. Du coup, à partir du moment où la vidéo était connectée avec ce hashtag d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Et c'est ça qui crée un peu le lien sur toute la création. Du coup, dans l'idée, c'est un peu comme le film Brésil, où tu te dis, tiens, ça va être un truc sur le Brésil, et puis en fait, c'est carrément à 300 km de ce truc-là. Bon, ceci dit, dans le film, tu as quand même un rapport à l'administration brésilienne qui est complètement dingue, que tu retrouves bien dans le film. Et du coup, nous, on s'est dit, on va prendre cette direction-là, en fait. Vraiment prendre ce mot et se l'approprier.
Et du coup, dans l'espace, ça se traduisait comment ?
Bah, dans l'espace, tu as le public qui est vraiment au centre, qui est entouré par trois écrans. Du coup, on va dire, là, c'est le public, là, tu as un écran, là, tu as un écran, et là, tu as un autre écran, et là, derrière, tu as deux tâches de vidéos qui sont diffusées sur les murs. Sachant que les écrans, ils peuvent tous jouer en même temps, ou pas, ça peut être un par un. Du coup, le public, c'est un truc, il y a un côté très divertissant dans le dispositif, parce que c'est plein de lumière, c'est « waouh », puis t'es embarqué tout de suite, il se passe plein de trucs. Mais en fait, surtout au-delà de ça, c'est pas du divertissement TF1, quoi. C'est le truc, le public, il est là, il est placé au milieu, et il est obligé de faire un choix de ce qu'il va regarder et de ce qu'il va écouter. Puisque les musiciens, ils sont partout, tout autour, ils se déplacent. L'espace, il est un peu en perpétuelle reconstruction.
Les musiciens se déplacent.
Ouais. Ceux qui peuvent, surtout les saxophones.
Ils emportent leur instrument avec eux.
Ouais. Du coup, des fois, soit ils se déplacent autour, parce que tu avais une coursive et le public était un peu dans une fosse, en fait, si tu veux. Et soit les musiciens se déplacent autour, soit à l'intérieur du public aussi. Du coup, tu as plein d'informations qui arrivent en même temps. Et je pense que quand tu es dans le public, et c'est vraiment ce qu'on s'est rendu compte de ça quand on a fait la première, c'est que du coup, tu peux pas tout voir. Du coup, tu es obligé de faire un choix et tu es obligé de te dire « Bon, bah, qu'est-ce que je vais regarder, en fait ?» Et ce truc-là nous intéresse vachement parce que du coup, tu peux créer une narration, tu as plein d'infos et tu voyais les déplacements des gens. Et le moment où on était hyper contents, c'est quand le déplacement, tu l'avais pensé. Puisqu'au final, par exemple, moi, j'ai écrit de la musique pour ça, mais j'ai pas vraiment écrit de la musique, j'ai surtout écrit quelque chose pour un dispositif. C'est-à-dire, tu écris quelque chose qui a un rapport avec du son, de l'image, de la lumière et de l'espace. Et quand tu penses vraiment la composition dans ce truc-là, tu peux vraiment commencer à te dire « Bon, là, tu as l'écran qui s'allume avec tel son, les gens, ils tournent la tête ici, après, tu les fais déplacer là, et après, je veux qu'ils aient la tête qui aille là-bas. » Et quand tu as ça, et que tu vois que ça prend forme en face de toi et que ça marche, bon, bah, tu es juste hyper content. Mais après, tu as d'autres pièces où du coup, tu as plein d'infos en même temps, et là, le spectateur, il est obligé de se dire « Il est actif, en fait. » C'est pas un truc passif. Et on cherchait un peu ce positionnement-là aussi. Et quand je parlais du mode d'accès, c'est vachement sur ce truc-là, en fait. C'est qu'effectivement, je pense que notre musique, quand tu la joues de manière frontale, où toi, tu es sur scène et les gens, ils te regardent, c'est intéressant, mais c'est un mode de diffusion qui s'adresse vachement aux spécialistes, en fait. Parce que du coup, tu viens, puis tu es disponible, tu as déjà toutes les références qu'il te faut. Tandis que quand la chose, elle prend lieu dans l'espace et que l'auditeur, on lui demande de faire des choix, tout de suite, il est obligé de s'approprier l'espace, du coup, la musique, du coup, les vidéos, et il a complètement un autre rapport avec des choses qu'il ne connaît pas du tout, en fait. Il est obligé de se les approprier. Comme nous, on s'est approprié le hashtag Brésil, par exemple. Mmh.
Du coup, il y a quand même un mélange entre une narration, donc une forme un peu classique, et un traitement très moderne dans l'espace, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Une répartition dans l'espace.
Ouais, ouais, complètement.
Et ça, est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on retrouverait aussi beaucoup dans ton solo, Acapulco ?
Bah ouais, ouais, il y a de ça, ouais. En fait, l'idée, mais je pense qu'il y a ça dans Acapulco et il y a ça dans le mashup. L'idée, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de trouver des formes qui permettent de jouer avec n'importe quoi.
C'est-à-dire n'importe quoi ?
Bah, n'importe quoi, c'est-à-dire avec tout ce qui est possible et tout ce qui existe, en fait. Alors,
en termes de son ?
En termes de son.
D'objet ?
En termes d'objet, en termes de son, en termes d'esthétique. Alors voilà, alors après, quand je fais le solo à Acapulco, je suis tout seul. Du coup, j'ai pas une banque de son infinie, je joue pas de l'ordinateur. Du coup, j'ai forcément un espace qui est fini, mais c'est plus une intention qui est là pour dire, bon, il y a tout qui existe, et même si moi, je fais quelque chose sur un point précis de tout ce qui existe, quand je fais quelque chose, je veux pas que ça soit fait avec l'intention que tout, en fait, toutes les choses que je fais pas, elles disparaissent et qu'elles n'existent pas. Tu vois, c'est-à-dire, genre, je veux jamais rien jeter à la poubelle, quoi. Et l'idée, c'est de trouver une forme qui me permet de jouer aussi bien avec des sons, j'en sais rien, qui viennent du reggae, que du métal, que de la variété. Du coup, c'est la question qui se pose derrière, c'est quelle forme permet ce type de jeu, en fait. Tu vois? Et moi, en ce moment, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse et c'est une grosse partie de mon travail. Et tu retrouves ça, bon, t'avais ça dans le mashup, t'as ça dans Acapulco, t'as ça dans Snap aussi. Qui, au final, c'est toujours plus ou moins le même travail autour de la forme. Mais comme ça me permet d'agglomérer n'importe quoi, par exemple, dans Acapulco, t'as une référence qui est beaucoup plus noise, parce que tu utilises beaucoup de bruit, de... Dans Snap, c'est les mêmes types d'agencements, sauf qu'on va piocher dans des éléments noise, mais aussi beaucoup plus pop. Du coup, en fait, c'est le contenu qui change la forme. Ça lui donne encore d'autres éclairages. Mais l'idée, pour moi, elle est toujours, c'est toujours celle-ci. Moi, je pense les trucs, j'ai pas de clivage esthétique, en fait. Tu vois, j'écoute aussi bien du jazz que du reggae, que de la musique contemporaine, que du rock. Et je mets tout ça sur une espèce de ligne toute droite. Il n'y en a pas une qui vaut plus que les autres. Du coup, à partir de ce moment-là, en fait, quand tu as une hiérarchie qui est toute plate et qui est plus verticale entre les choses, mais d'ailleurs aussi bien entre les gens, c'est une chose qu'on retrouve dans Coax aussi. On n'est pas du tout dans une hiérarchie pyramidale. Il n'y a pas les musiciens et les employés, c'est tout le monde au même niveau. La question qui se pose, c'est quelle intensité ça crée une échelle comme ça, en fait. Et du coup, comment tu réagences les choses pour retrouver une dynamique dans tout ça. Si tu te balades plus comme ça, mais en fait, où c'est comme ça, où c'est horizontal. Et c'est un peu tout le travail, en fait. Enfin, moi, je bosse vachement autour de ça, en général. C'est un peu mon idée. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que tout à l'heure, tu disais jeune génération jazz et tout ça, mais moi, je ne m'identifie pas vraiment en tant que jazzman, parce que pour moi, le jazz, c'est une partie de quelque chose. Mais c'est absolument pas le monde musical dans son entier. Ça reste vraiment une partie. Du coup, pour moi, le jazz, je sais ce que je vais y piocher, mais je sais aussi ce que je vais piocher dans le rock.
Et qu'est-ce que tu vas piocher dans le jazz ?
Dans le jazz, je pense que c'est l'appropriation. Moi, c'est ce que j'y vois. Pour moi, le jazz, avant que ça soit un terme esthétique, c'est surtout une démarche. Moi, j'aime bien la définition de Stigler, de Bernard Stigler sur le jazz. C'est qu'en gros, lui, il dit que le jazz, c'est une population qui est opprimée, qui s'approprie les moyens techniques de l'oppresseur. Du coup, en l'occurrence, le saxophone, la contrebasse, tu vois, qui sont vraiment
des... Qui sont des instruments occidentaux.
Ouais, qui sont des instruments occidentaux. Bon, la batterie a une place différente encore, je pense, parce que c'est un truc, les tambours, les percussions, ça vient quand même d'Afrique. Mais en tout cas, même après, dans le jeu, tu regardes ce que fait Charlie Parker ou même Louis Armstrong, c'est quand même jouer avec des codes harmoniques de la musique occidentale, tu vois. Pas du tout avec des choses de l'Afrique. Alors après, voilà, les Noirs de cette époque-là, ils ramènent quand même le côté rythmique qu'il n'y a pas du tout dans la musique occidentale et encore plus européenne à la base. Et du coup, pour moi, le jazz, c'est vraiment ce côté-là, c'est l'appropriation, c'est-à-dire de prendre un instrument, quelque chose qui te sert à faire quelque chose, et de le détourner pour en faire ce que tu veux, pour pouvoir affirmer ta propre personnalité. Et moi, c'est ce que j'y trouve, et en tout cas, c'est le truc, je trouve, qui tire le plus de liens entre toutes les esthétiques différentes du jazz. Tu vois ? Du coup, que ça soit le free jazz, le jazz moderne, le jazz funk. Ouais, voilà, la personnalisation du son, c'est vraiment l'appropriation. Si pour moi, t'enlèves ce truc-là, t'auras beau me mettre un chabada, mais qu'en fait, les mecs, ils sont en train de faire du swing, ou je sais pas quel truc, ou en tout cas, ils sont plus dans l'imitation, dans la reproduction. Bon, bah, moi, j'appelle pas trop ça du jazz, c'est de la musique trad, tu vois. Après, ça empêche pas que ça peut être très bien quand même. Hein. C'est pas un jugement qualitatif, mais voilà. Du coup, moi, je prends ce truc-là dans le jazz. Il y a quelques années, je t'aurais dit que je prenais de l'improvisation aussi, mais au final, ça improvise dans toutes les musiques, pratiquement. Je veux dire que ça soit dans le rock, toutes les musiques trad, le reggae, même dans la musique contemporaine, t'as des trucs où ça improvise. Du coup, c'est pas une chose qui est spécifique au jazz.
C'est une bonne question.
Je pense, moi, mais c'est marrant parce qu'on a déjà eu...
C'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai pas la réponse.
Non, moi non plus, mais je pense vraiment que l'improvisation n'est pas du tout une spécificité du jazz. Parce que ça improvise dans plein de styles de musique différents. Alors peut-être que ça l'était il y a 60 ans, mais si t'actualises les choses au jour d'aujourd'hui, bon bah voilà, moi je rencontre des mecs qui sont jamais passés par le jazz et j'improvise avec eux sans problème. Et ils ont des consciences de forme, ils ont des consciences harmoniques, ils ont des... Du coup, la chose, elle, peut-être qu'avec le temps, elle s'est un peu détachée de ce truc-là, du jazz. Après, le jazz, c'est resté longtemps la musique la plus ouverte qui pouvait accueillir le plus de choses différentes aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est affilié à un mouvement jazz. Mais je pense que la chose est en train de changer, parce que le rock est un milieu qui s'ouvre beaucoup aussi, particulièrement tout ce qui est rock indé, tout le milieu alternatif, qui est vraiment friand de plein de mixité musicale, je dirais.
Tu penses que le jazz est moins ouvert qu'avant ?
Moins ouvert, je sais pas, je pense qu'il y a un côté conservateur. Après, tu me diras que c'est dans, comme dans la plupart des musiques, mais...
Bah, ça dépend de quel point de vue tu te places, parce que si on considère que toi, tu viens du jazz, c'est très ouvert.
Après, voilà, il y a jazz et jazz. Je pense que tu as le jazz qui est représenté par les institutions, et puis tu as le jazz qui est représenté par les musiciens, reste à savoir duquel on parle. Tu vois, par exemple, moi, je vois certains festivals de jazz en France. Les programmations qu'ils proposent en elles-mêmes, je vois pas trop. C'est pas très aventureux, des fois. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est un peu conservateur. Mmh. Tu vois? Et c'est que du coup, ce que je trouve conservateur et voire un petit peu réactionnaire, c'est le fait de s'accrocher aux origines, en fait. Et de dire, le jazz, c'est ça, parce que c'est une esthétique, et le jazz, c'est ou c'est un solo, ou c'est du free jazz, ou c'est machin. Encore une fois, moi, ma vision du jazz, ce que je disais avant, c'est l'appropriation d'un moyen technique. Du coup, c'est pas une proposition esthétique, c'est une démarche.
Oui.
C'est un truc de la vie de tous les jours. Du coup, dans ce sens-là, quand je me pointe dans des festivals de jazz et que je vois que esthétiquement, c'est hyper cadré, je me dis merde. Tu vois, et je me dis c'est bizarre. Surtout qu'en plus, c'est faire venir les gens s'asseoir dans un fauteuil, leur donner à manger, tenez, vous avez vu ça, les gens ils sortent, ils disent c'est beau. Mais même en soi, la démarche elle est pratiquement plus politique, je trouve. C'est surtout des programmations qui passent leur temps à gérer, à dealer avec les institutions qui les financent. Du coup, qui pensent beaucoup plus leur programmation en termes de jauge, de public, que de pratique artistique. Et je comprends tout à fait pourquoi on deal avec ça, et je dis pas qu'il faut pas s'occuper du public, hein, attention. Hein. C'est pas... Mais du coup, moi, il me manque quand même toujours la partie de... Bon, bah, quand est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de l'histoire de l'art, en fait, tu vois? Et ça me manque vachement dans pas mal de festivals de jazz. Je citerai pas les noms, parce qu'on n'est pas là pour montrer du doigt. Mais en tout cas, ça me manque pas mal, ce truc-là. Et du coup, je pense que quand tu commences plus à te positionner vis-à-vis de l'histoire de l'art, bon, bah, en fait, t'es juste un truc divertissant, en fait, tu vois? Et du coup, surtout quand t'es que dans ce rapport de « Bon, bah, ce soir, j'ai fait tel truc », ça a ramené tant de personnes. Tu vois, c'est très divertissant, voire un peu consumériste aussi.
Et alors, pour revenir à la question de la forme et de la démarche, donc, toi, tu sais exactement ce que tu prends dans le jazz. Et comment, du coup, est-ce que tu définirais ta musique si c'est pas du jazz?
Bah, voilà, alors le truc, c'est que ça, c'est une bonne question, hein, qui est compliquée. Il y a le premier truc, c'est que d'emblée, bon, je pioche dans des esthétiques différentes et variées. Du coup, je peux pas me mettre à appeler le truc avec un nouveau nom de musique ou dire je fais du rock, jazz, contemporain, improvisé. Bon, t'as des gens qui définissent les trucs comme ça, moi je pense pas. Au final, je pense que la musique que je propose ou qu'on propose quand je suis avec des gens, c'est quelque chose qui s'adresse, c'est une expérience esthétique en fait. Tu vois, du coup, c'est quelque chose qui est donné, qui est envoyé et... Comme c'est pas classable via des étiquettes, en fait, c'est vraiment un truc d'expérience. Je pense qu'au final, ça s'inscrit un peu comme les œuvres qu'on peut voir dans les milieux d'art contemporain, par exemple. Tu vois, où t'as un artiste peut utiliser des supports très différents. C'est-à-dire, il peut travailler aussi bien avec de la vidéo que sur des supports plastiques, que sur des installs spatiales. Du coup, dans ce sens-là, moi, je pense que ce qu'on joue, c'est de la musique contemporaine, mais pas contemporaine dans le sens 20e siècle, Olivier Messiaen.
Pas savante.
Ouais, voilà, pas savante, parce que de toute façon, en plus, moi, j'ai commencé la guitare, j'avais 16 ans. Mes parents, c'est des gros prolos. Je viens pas du tout d'un milieu élitiste, mais c'est de la musique contemporaine dans le sens art contemporain, dans le sens où on se permet d'utiliser un peu tout et n'importe quoi, du moment que ça colle aux propos qu'on veut faire passer, en fait.
l'art contemporain est souvent pointé du doigt parce que il ne pourrait pas se passer de discours pour être compris. Est-ce que toi, t'as pas peur que ta musique, que ce soit celle que tu fais seule ou avec d'autres gens, elle ne puisse pas se passer de discours pour être comprise?
Avec la musique que je joue, non, je pense pas. J'ai pas cette peur-là, parce que je joue, par exemple, ce solo à Acapulco, je l'ai joué dans des endroits mais hyper différents. Des clubs de jazz, des festivals de musique où il y a plein de trucs, c'est-à-dire que j'ai joué après des groupes de variettes, tu vois, dans des trucs, des espaces très différents. Et la réaction du public, elle est jamais... on vient jamais me demander de préciser ce que je fais, si tu veux. J'ai pas besoin d'enrober le truc, d'un joli discours pour que les gens ils se le prennent direct ici. Parce qu'au final, quand je fais les choses, je pense que je suis très investi corporellement. En général, t'as quand même, c'est très dense. Du coup, je pense que le public, il se prend ça, il y a deux positions. C'est soit t'aimes beaucoup, soit t'aimes pas du tout, en fait. Mais dans tous les cas, je pense que j'envoie un truc qui est très fort. Bon, alors, je fais pas le mec rempli d'humilité quand je dis ça, mais bon, peu importe. et du coup, je pense que ça se passe du discours. Et quand on vient me poser des questions en général et que les gens ont besoin du discours, c'est parce qu'au final ils ont été dérangés par le truc, que c'est des musiques dont ils n'ont pas l'habitude. Du coup, là, je discute volontiers. Et des fois, après des concerts, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent « Je pense que ce que tu fais, c'est pas de la musique. » Du coup, je lui dis « Bon, bah, discutons de ce que c'est la musique. »
Et alors, qu'est-ce que tu réponds ?
Bah voilà, moi je réponds que la musique, il y a des gens, ils pensent que c'est vraiment c'est des trucs de rythme, c'est ce que tu entends à la radio, ce qui est vrai. Mais que la musique aussi, c'est l'agencement de n'importe quel son existant. Moi, je sais plus quel auteur avait écrit ça, mais il y a une idée que j'aime bien. Un mec qui dit, en gros, la musique, elle vient de la nécessité d'agencer les sons qui sont autour de nous ou qui nous font peur. Et que c'est un sentiment qui remonte au temps où on était encore juste des cellules, mais des trucs monocellulaires, en fait. Et que, du coup, c'est-à-dire que tous les sons, tout ce qui nous entourait, étaient plus des sources d'angoisse.
Oui, des menaces.
Des menaces.
Comme la nuit, quand on ne sait pas d'où viennent les sons.
Voilà, exactement. Et que du coup, la musique, le truc le plus primitif, ça serait de s'approprier cet environnement sonore. Parce qu'à partir du moment où la chose, elle devient tienne, bon, bah forcément, elle te fait moins peur. Et du coup, en général, c'est ce que je dis. Et bon, bah voilà, tout de suite, ça crée d'autres images. Et les gens, au final, ça fait référence à plein de trucs qu'ils entendent quand, j'en sais rien, ils sont assis dans le bus, ou dans le métro, ou dans la forêt. Tu vois, parce que, au final, pourquoi, voilà, les sons dans une forêt, ça serait pas de la musique. Alors, sans personne, c'est pas de la musique, mais toi, à partir du moment où tu te le mets à l'écouter et à te dire que c'est quelque chose qui vient vers toi et que tu le prends, tu peux déjà commencer à le transformer en musique. Tu vois?
Oui. Oui, c'est un peu la théorie qui dit que l'art n'est de l'art que parce qu'on est là pour le regarder ou pour l'écouter.
Ouais, voilà, c'est sûr. Bah, tu vois, c'est pour ça. Enfin, mais c'est pour ça que je parle souvent de trucs, tu t'adresses à quelqu'un. Parce que si moi je m'adressais à personne, ça m'empêcherait pas de jouer de la guitare, mais j'aurais pas besoin de faire de concert. C'est-à-dire, je pourrais juste rester dans mon salon et jouer de la gratte.
Ce serait pas du tout pareil en fait, parce que la directionnalité, le fait de créer une intention, le fait de l'adresse simplement, ça change complètement le rapport et ça change la manière dont tu crées tes formes.
Bah ouais, c'est forcément. Ça. Et même la situation de concert, moi je me suis souvent posé pas mal de questions. Bon, c'est quoi qui est différent entre le moment où tu répètes et le moment où tu es sur scène? Et rien que le fait de projeter les choses vers les gens et que tu aies des gens qui soient là pour le récupérer, mais ça change complètement ton attention pendant le concert et ton intention aussi. Parce que du coup, tu sens très bien qu'il y a des gens qui te regardent, qui t'écoutent. Bon, alors déjà, même avant de jouer de la musique, quand tu discutes avec des gens et que tu es regardé par des gens, ça change la donne. Mais alors en plus, quand tu es dans un acte musical, c'est juste, ça transcende complètement le truc. Et d'autant plus quand tu te sers de l'improvisation. L'improvisation, c'est pour plus que de créer des nouveaux sons tout le temps. Pour moi, c'est le truc qui fait que les choses ne valent qu'une fois. Tu joues, tu fais quelque chose, tu peux pas la transformer, tu peux pas la modifier. La seule chose que tu peux faire, c'est continuer à construire ce qui l'englobe, en fait. Du coup, la chose que tu donnes aux gens, quoi, ce que tu laisses percevoir, le scénario que tu crées, ou la narration, ou les différences de dynamique qui fait qu'à un moment, tu es là, c'est hyper fort, d'un seul coup, c'est le silence. Et du coup, tu fais « Merde, qu'est-ce qui se passe? Il a fini, il s'est pas arrêté. » Merde.
Ça accorde beaucoup de place à la sensation, ça aussi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais d'expérience esthétique, en fait. D'expérience tout court, puisque... Voilà, moi, je suis pas en train de jouer des trucs qui se réfèrent non plus, au final, à des trucs esthétiques, genre je fais partie de la pop, ou je fais partie du jazz, ou je fais partie du rock, mais c'est un mix de tout ça. Du coup, ça vient vraiment jouer sur la sensation et la mémoire des choses, aussi. Des fois, tu vois, dans Snap, je vais utiliser des trucs harmoniques volontairement pop, pas parce que j'ai envie de jouer de la pop en fait, mais parce que je veux que ce truc-là, il fasse référence à une espèce de souvenir inconscient collectif qui crée, qui te rappelle telle émotion ou telle sensation, et du coup commencer à jouer avec ça, c'est-à-dire un peu comme un truc de, un peu comme un film en fait, où tu vois, où t'as l'impression que le tueur c'est lui, et puis à un moment donné, en fait, tu te rends compte que c'est lui, et tout ce que t'as vu, en fait, tout le monde, il a complètement changé, ce que ça remet en jeu, tous les trucs, et c'est plus jouer avec ce truc-là, et du coup, dans la musique qu'on joue, t'as vachement une notion d'action aussi, et pratiquement de, pas de comédien, mais tu joues à des intentions, pour donner un sentiment à quelqu'un, et du coup, une fois que tu sais que cette personne-là, elle est dans tel sentiment, on va dire, telle émotion, telle sensation, on appelle ça comme on veut, bah, c'est hyper drôle, en tout cas, c'est hyper intéressant, de... tu coupes. Et là, la personne, après, elle fait, mais merde, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on...
Et pour toi, corporellement, quand tu joues ton solo, au niveau de la sensation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement en jeu, volontaire ou pas volontaire?
Bah, au début, il y avait un truc où j'étais très dépendant du dispositif que j'avais mis en place pour jouer solo. Parce que du coup, je joue de la guitare. Bon, après, c'est des techniques étendues, je fais rarement de la guitare. J'ai un set de pédales au pied. Et du coup, c'est vraiment un truc mixte entre des actions sur la gratte et des enclenchements de pédales pour avoir des sons et des machins. Du coup, j'ai tout le corps qui est complètement investi dans ce solo. Et au début, quand j'ai commencé à bosser ça, c'est comme si j'étais obligé de me réapproprier un nouveau instrument, en fait. Parce que si tu veux, pour faire des enchaînements de pédales comme ça, j'étais obligé, entre guillemets, de me chorégraphier un peu des mouvements et de les bosser de manière... très comme un robot un peu, pour que ton corps, comme ce que j'avais bossé il y a 10 ans à la guitare sur les mains, je puisse avoir la même chose avec les pieds. Du coup, au tout début, quand j'ai commencé à le jouer, je maîtrisais mon corps, c'était encore quelque chose de nouveau. Du coup, j'étais dans un truc qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire que la forme, bon, bah, c'était surtout, elle se créait surtout vis-à-vis de la dépendance de mon corps, vis-à-vis du dispositif en fait. Après l'avoir pratiqué pas mal de fois, maintenant je suis beaucoup moins embêté par tout ça. Du coup, j'ai beaucoup plus conscience de mes trucs, de mes machins, de là j'appuie, c'est beaucoup plus maîtrisé en fait. J'ai aussi beaucoup travaillé du coup mon appui sur le bassin. Le corps en fait, ça y est, le truc, on va dire, il est plus ou moins digéré. Du coup, maintenant, je peux recommencer à jouer avec de la forme, avec tout ça. Mais surtout, le truc le plus hallucinant, c'est que des fois, je sens que c'est surtout des intentions corporelles et plus du tout des intentions musicales. C'est-à-dire que maintenant, je bosse avec un chorégraphe, Grégory Edelin. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on met le doigt sur quelque chose, c'est qu'à un moment donné, en fait, je continue à faire exactement les mêmes mouvements sans son, c'est-à-dire je coupe le son et je continue à faire rien, et t'entends plus rien, mis à part le bruit des pédales, et l'intention est la même. Sauf que d'un seul coup, tu passes de l'espace de la musique à un truc corporel. Alors, loin de moi l'idée de dire que je suis danseur, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, d'un seul coup, t'es plus en train d'écouter de la musique, mais t'es en train de regarder quelqu'un qui bouge. Et c'est encore, et d'un seul coup, t'as un autre espace qui s'ouvre. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est que moi, je peux continuer à faire comme ça. Je suis pas du tout en train de jouer de la musique, mais je le fais quand même, et je le sens. Alors qu'à la base, bon, bah voilà, je suis comme tous les musiciens, je me cache derrière mon instrument. Tu vois, le rapport au corps, c'est pas du tout un truc qu'on t'enseigne dans les conservatoires ou dans les écoles de musique. On enseigne vachement à pouvoir faire le métier, lire des partitions, et tous ces trucs-là. Et du coup, ça, c'est vraiment l'espace que j'ai découvert et que je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Parce que là-bas, je suis vraiment parti d'une idée musicale, mais j'étais obligé de passer par le corps pour pouvoir y arriver. Et au final, ça a vraiment ouvert une grande porte. Mais ça rejoint encore cette idée de cette forme qui est capable d'accueillir n'importe quoi. C'est qu'au final, ce truc musical, il est au même niveau que ce truc corporel. Du coup, on peut très bien les mettre comme ça et commencer à jouer avec, voir quelle intensité on donne en mettant ces deux espaces en même temps, en fait.
Du coup, tu pourrais incorporer aussi à ton solo éventuellement des images.
Ah ouais, complètement, ouais.
Ou d'autres arts.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah là, du coup, on bosse vachement sur le corps maintenant avec Grégory. Là, la version que je vais jouer mercredi au plateau, je vais être assis encore parce qu'elle n'est pas du tout prête, la version finale de l'autre truc. Mais la nouvelle version, ça va être un dispositif de... je suis au sein de lumière, en fait. Du coup, il y a un contre derrière. de face, je suis debout. Du coup, la lumière, elle dessine un espace. J'ai mes pédales qui sont dispersées dans l'espace un peu partout, en général par spot de deux. Et les lumières, c'est moi qui les contrôle avec des switches qui ressemblent à des pédales de guitare. Mmh. Et du coup, je me balade, je vais à ce spot-là, c'est moi qui gère la lumière, c'est moi qui fais tout, machin. Du coup, d'emblée, tu rajoutes la lumière, tu rajoutes les questions de qu'est-ce que tu donnes à voir, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu ne montres pas, justement. Quelle narration tu crées avec ça. Et la chose qui est encore intéressante, c'est que bah, du coup, je me sers de la lumière, mais dans le processus pour déclencher la lumière, c'est le même processus que pour jouer de la musique, en fait. Du coup, c'est encore un truc qui aplatit tout ça et qui fait qu'à un moment donné, je peux juste jouer de la lumière. Par le même biais que si j'allais jouer de la musique, sauf qu'en fait, il n'y a plus de musique. Et que du coup, tous les espaces sont connectés comme ça, à un moment donné, ils sont tous ensemble, ça crée un truc, et en même temps, ils sont tous indépendants, ils sont tous isolés. Et c'est de jouer avec ça. Tu vois le...
C'est très, très jazz, hein. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu utilises plein de références qui sont hyper jazz, en fait.
Ouais, possible, ouais.
La multiplicité des points de vue, tout à l'heure, on parlait des sons de la nature et de comment on peut se les approprier. C'est très jazz aussi de s'approprier les sons ambiants.
Ouais.
Bah, urbain, moi, je pense que c'est plutôt le... pour l'histoire du jazz. Mais...
Bah, c'est ce que je te disais, je pense que le jazz, c'est l'appropriation, en fait. Du coup, dans ce sens-là, oui.
Oui, mais là, il y a vraiment l'idée d'une multiplicité des points de vue, quoi. L'idée que vraiment, à un même endroit, on donne à voir et à entendre en même temps des points de vue différents.
Mmh. Mais tu penses que c'est vraiment le jazz, ça ? Moi, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est un truc qui est partagé par beaucoup de musique, mais d'ailleurs pas que de la musique, beaucoup de penseurs aussi. Dans la danse, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Je pense que c'est quand même un truc qui traverse, encore une fois.
Alors, je connais pas toutes les musiques, donc je peux pas répondre de manière exhaustive.
Moi non plus, hein. Mais,
mais disons que si on compare, par exemple, le jazz avec la musique savante, je pense que oui, clairement, c'est beaucoup plus jazz. Dans la musique savante, il y a une forme d'unisson qui est réglée par le compositeur. Mmh. Alors qu'en jazz, du fait que c'est vraiment une musique qui se joue au présent, à cause de l'importance qui est donnée à l'improvisation, et que dans le free jazz, mais même pas que dans le free jazz, en fait, les gens ils vont jouer sur l'écoute et jouer sur comment est-ce qu'ils vont répondre à ce que l'autre propose. Mmh. Du coup, en fait, il y a des sortes de discours parallèles, mais en même temps connectés.
Mmh.
Bah, et c'est ça que j'appelle la multiplicité des points de vue.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ce qui est drôle, moi, c'est je pense pas forcément les choses en termes de points de vue, mais du coup, plus avec des concepts spatiaux, je dirais. Moi, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Tristan Garcia, qui est une espèce de philosophe, penseur, qui a notre âge à peu près, qui doit avoir 30-35 balais. Qui a vraiment une activité d'un côté, qui écrit des gros traités de philosophie hyper rêche, hyper dur à lire, t'as intérêt à avoir envie, puis de l'autre côté, qui a une activité de romancier, et puis encore de l'autre côté, il fait des scénarios de séries télé. Tu vois, du coup, voilà. Et en gros, lui, c'est ça, il parle de ce monde plat, en fait. Il dit que... Il repense un peu la notion d'être, tu vois, par rapport à Descartes, qui dit « je pense, donc je suis ». Lui dit qu'en fait, être, c'est être dans quelque chose. Mmh. Tu vois, du coup, chaque... par exemple, t'as le bois qui est dans cette table, puis après, t'as la table. Puis après, t'as la table qui est dans l'espace ici. Du coup, plus qu'une multiplicité de points de vue, c'est plus que les choses sont toujours contenues par des choses différentes en même temps. Tu vois ? Comme t'as la pierre qui est dans ta main et t'as la pierre qui est dans le monde. Et du coup, c'est plus, en termes, plus qu'une une multiplicité de points de vue, c'est plus travailler entre ces différentes choses avec lesquelles l'objet se rapporte tout le temps, en fait. Moi, je pense plus les trucs comme ça. Alors après, c'est peut-être juste une différence de terme. Hein. Mais tu vois, du coup, quand je te dis qu'à un moment donné, moi, je joue, il y a de la musique, de la lumière et du corps, et tout ça, c'est emboîté, en fait. Plus qu'une multiplicité de points de vue, c'est que juste, à un moment donné, ils appartiennent tous à des espaces différents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pourrais juste avoir le corps, donc la danse, la musique, donc le son, la lumière, donc, je sais pas, les ombres et la lumière, mais que tout marche ensemble, et qu'en même temps, à un moment donné, tu peux dire, plaf, tu redonnes tout le monde son espace où la chose est seule, en fait. Tu vois ? Et ce mec-là, Tristan Garcia, lui, il dit, quand on arrive dans le monde, on arrive seul. C'est-à-dire qu'on est juste une chose finie sur elle-même, mais que par contre, ce qui change tout le temps, c'est la chose dans laquelle on est, en fait. La chose qui nous contient. Tu vois, moi, je viens des prés, je ne suis pas du tout la même chose quand je me pense vis-à-vis de l'atelier du plateau, l'endroit où on est, que quand je me pense vis-à-vis de l'Europe, par exemple. Tu vois, les choses, elles prennent différents
Donc,
sens,
en
différentes
fait,
intensités.
ça voudrait dire que c'est l'espace qui nous définit, en fait.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est ça?
Ouais, c'est ce qui nous contient, en tout cas. Parce que ce qui nous contient, ça change ce qu'on est, en fait. Et moi, je serais pas du... Et c'est la même chose, tu vois, quand tu parles... Je parle avec toi, là, ça me met dans tel état, mais je vais parler avec quelqu'un d'autre et ça va me mettre dans un autre état. Tu vois, c'est plein de...
C'est marrant parce que du coup, on revient sur la question de l'adresse.
Ouais, voilà. Mais du coup, c'est ça, c'est à qui tu t'adresses, dans quel espace tu fais les choses. Et surtout, en fait, la vision, moi, ce que j'aime bien dans cette vision du monde, on va dire, c'est qu'en fait, c'est une vision qui n'est pas séparatrice, même si elle différencie les choses. C'est-à-dire, tu vois, à un moment donné, le truc, il est quand même de dire, on est seul au monde, et on arrive dans le monde, on est seul, et on ne peut jamais sortir du monde. Dans le sens où tu ne peux jamais rien sortir du monde, c'est-à-dire même l'idée la plus dégueu que tu ne peux pas blairer, elle existe, elle est là. Et en faire fi en disant non, ça n'existe pas, c'est la nier. Et toute une idée comme ça, c'est pour dire bon, bah en fait, ça ne me plaît pas, mais je ne vais pas l'acheter à la poubelle pour autant, je suis obligé de négocier avec, puisque de toute façon, ça fait partie du même espace dans lequel je suis. Du coup, c'est plus de travailler avec pour montrer que si cette idée, elle ne plaît pas, bah, c'est surtout une idée qui est impossible, tu vois, plus qu'une idée qui est dégoûtante. Tu vois, du coup, ça te force aussi à dealer avec tout, tu peux rien jeter à la poubelle. Et mais surtout, ce que je trouve mortel, c'est que ça met tout au même niveau, c'est-à-dire. Toi, la table, la baignoire, la voiture, un chien. C'est tout est au même niveau. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir jouer vraiment avec ce n'importe quoi, en fait. C'est quand les choses, elles ont toutes la même dignité, la même valeur, mais par contre, elles ont des qualités différentes.
Et du coup, si on réfléchit en ces termes-là par rapport au son, à la matière sonore, et là je pense à ton solo, tu dirais que tu poses des sons dans des espaces différents?
Je prends des sons qui viennent d'espaces différents pour les remettre dans un certain espace, je dirais.
Tu modifies leurs espaces?
Ouais, en fait, je prends des sons. En fait, si tu veux, j'ai pas bossé par hasard avec des pédales. Ce qui m'intéresse dans les pédales, c'est d'avoir des sons qui sont finis et que n'importe qui pourrait faire. Tu vois,
Ouais.
à un moment donné, j'appuie sur un bouton, ça fait. Que ça soit moi ou un enfant de 5 ans ou une grand-mère de 70 ans, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de technique pour ça. Et c'est ce qui m'intéressait vachement. Du coup, c'est des sons qui viennent d'espaces différents dans ce sens-là, dans le sens où ils sont finis, ils sont sur eux-mêmes et c'est un truc. Du coup, l'enjeu, bah, c'est dans quoi tu les fais exister en fait, dans quel type d'espace. Du coup, si le derrière, je le fais exister avec un gros accord de do majeur, il n'y aura pas du tout le même sens si derrière, ça fait qui là, on va dire. Si je fais plus dans une esthétique, je sais pas, musique électronique ou noise, mais derrière tu rajoutes de l'harmonie, le son il fait plus du tout partie de la même chose. Du coup, l'idée c'est vraiment de jouer avec tous ces sons, ces événements qui sont un peu seuls, mais en fait dès que tu les accoles avec d'autres choses, ça prend un sens qui a rien à voir. C'est plus du tout la même chose. Du coup, le noise il est plus noise, l'harmonie elle est plus juste harmonique, le rythme c'est plus forcément tout 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 tout. Ça peut être. Et je pense que c'est plus ça que je fais. Du coup, tous ces sons qui s'entrechoquent, qu'est-ce que ça crée formellement, quoi?
Qu'est-ce que ça crée formellement?
Je pense que ça crée un truc où. C'est très dynamique, quoi. Du coup, en termes de scénarisation, je pense pas qu'il y ait vraiment un truc de scénario, genre ça raconte une histoire, tu vois, par exemple.
C'est pas une narration.
C'est pas une narration, mais c'est quelque chose qui joue avec le corps, du coup, avec vraiment des sensations corporelles. De la musique très dense, du silence. De beaucoup de sons, pim, une mélodie qui arrive. Du coup, tu peux. Je pense que, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, et j'ai l'impression que des fois ça marche, mais que ça met les gens dans une espèce de position un peu d'esclave, l'auditeur. Parce que du coup, t'as affaire, en face de toi, t'as affaire à un espace qui est pratiquement jamais fermé, du coup, qu'empreinte, qui vient les sons, ils viennent de partout. Tu peux pas le formaliser avec un mot, en disant c'est du rock, c'est du machin, c'est du truc. Du coup, tu te dis toujours, mais ah tiens, mais non, c'est du noise. Ah, mais non, en fait, c'est pas du noise. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, tu lâches ce truc-là et tu te laisses juste complètement bercer par tous ces changements de dynamique perpétuels qui rejoint un peu l'idée de la surenchère d'informations qu'on a tous les jours, par exemple. Tu vois, où les gens qui ont des smartphones, ils sont là, bim, ils reçoivent un message, puis après, t'as le mail, et puis après, t'as le truc, et puis en fait, t'es complètement dirigé par le machin. Et je pense que ça crée un peu ce truc-là. Du coup, au final, l'objet final, ça pose la question. Donc, bon, alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es surchargé d'informations partout, que ça s'adresse directement à ton corps, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pense que la chose, elle existe plus à travers cette question qu'un truc de narration ou de scénario.
Oui, d'accord. Donc, quand tu dis esclave, ça veut dire que, en fait, l'auditeur, il serait dirigé par la musique, par ce qui lui arrive.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. Et que du coup, il est. Pour vraiment, je pense, t'asseoir et profiter du truc, il faut pas que tu sois dans une position d'auditeur où tu viens voir un concert et tu sais ce que tu as envie d'écouter, par exemple. Ou si tu es comme ça, bah, tu vas être un peu déçu et une fois que tu seras déçu, tu pourras profiter du truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça passe forcément par, ça passe forcément par le fait d'être déçu. Si tu viens et que tu as une idée en tête de ce que tu veux écouter. Et du coup,
tu as une idée en tête de ce que c'est que la musique.
Voilà, de ce que c'est que la musique, exactement. Et ça rend les gens esclaves dans ce sens-là, c'est qu'au final, tu n'as plus de repères, tu es dans un monde qui est un peu. Et ce qui est assez marrant, tu vois, par exemple, avec Snap, l'autre jour, on jouait aux Instants Chavirés. Donc voilà, salle réputée, musique expérimentale, noise. Bon, voilà, moi j'avais pensé à une forme, je me suis dit, c'est bien, on joue aux Instants, les gens, ils attendent tel truc de musique. Le premier truc par lequel on a commencé, c'était la chose qu'on attendait tout de suite le plus de nous. C'est-à-dire, tu dis, OK, vous voulez ça, on vous donne ça. Tu prends ça, et puis en fait, au bout de 10 minutes, ça prend vraiment une direction complètement inverse. Tu as de l'harmonie qui commence à arriver, c'est plus du tout noise free. Du coup, pour les instants, ils sont là. Et en même temps, du coup, ça a hyper bien marché. Les retours derrière le public, c'est ça. Ils disent, mais en fait, vraiment, je ne sais plus dans quel espace je suis, parce que en même temps, j'avais eu ça, mais après, vous passez ça, et puis après, il y a ça, mais je ne comprends pas. Mais en plus, vous me proposez des trucs qui, esthétiquement, d'habitude, j'aime pas, mais là, ça passe. Parce que tu joues vraiment avec ces trucs de sensation. Du coup, le propos, il est plus esthétique. Et de dire, moi, je te propose du rock ou moi, je te propose ça, c'est plus de dire, viens par là, il se passe un truc où c'est vraiment une expérience, en fait. Tu vois, c'est comme marcher dans une rue que tu connais pas et découvrir tous les jours un nouveau truc. En tout cas, de découvrir un espace que tu connais pas, en tout cas, je pense. Et dans ce sens-là, je rejoins le truc quand je dis, notre musique, je pense qu'elle serait plus affiliée à un certain type d'art contemporain que vraiment à du rock ou du jazz ou de la musique dite contemporaine ou du reggae ou de tout. Parce qu'en fait, ce qu'on propose, je pense que ce qu'on propose, c'est vraiment cette expérience-là, arriver et mettre les gens dans un espace qu'ils ne connaissent pas et qui est en perpétuelle reconstruction, en fait. Mais du coup, qui n'est pas faite de manière intellectuelle parce qu'elle est vraiment faite de manière corporelle. Et le public, il le sent, je pense. Normalement, tu le prends là. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais. Je pense, ouais, t'as une ligne guitariste, ouais. Je pense que ça soit des mecs comme Sonny Sharrock, Derek Bailey, Fred Frith, tous ces mecs-là, t'as vraiment une lignée. T'as vraiment une lignée, parce que déjà, ils utilisent l'improvisation, même pour prendre les choses de manière plus générale, on va dire Frith, Bailey, on va même mettre des mecs plus jazz, Frizzell, Ducret, voilà, Sonny Sharrock, McLaughlin. Tout ça, je pense que c'est des gens qui ont vraiment fait évoluer l'instrument. Et justement, en termes vis-à-vis de l'histoire de l'art, ils ont fait évoluer tout ça parce qu'ils ont créé des écoles d'instruments pour moi. Par exemple, tu vois, McLaughlin, il a son truc de. Il a développé tel type de phrasé sur la guitare, il a fait école. Tu peux trouver des gens qui jouent comme McLaughlin, tu peux trouver des gens qui font vachement référence à Derek Bell, et il a mis en place une école aussi. Au-delà de jouer de la musique improvisée, ou pas, je pense qu'ils ont tous trouvé un espace hyper particulier dans la musique. Tu vois, ce qui fait que McLaughlin, c'est McLaughlin, Derek Bailey, c'est machin truc. Je pense qu'on fait tout ça, sauf qu'eux, ils ont vraiment créé une école vis-à-vis de l'instrument. C'est-à-dire que tu peux voilà, je pense que tu peux trouver des méthodes aujourd'hui, comment jouer comme John McLaughlin ou comment jouer machin ou truc. Mmh. Et t'auras comme Frizzell, t'auras certainement la même chose pour Ducret à un moment donné, quand la musique avec des dissonances sera mieux acceptée du grand public. Et du coup, moi, comment je me place vis-à-vis de tout ça, c'est que je me suis dit, bon, c'est cool, comment je peux avoir trouvé un truc qui s'inscrive dans toute cette histoire de l'art, dans le sens de trouver quelque chose qui est très spécifique, qui s'inscrit dans un endroit, c'est-à-dire, moi, je fais ça et c'est pas ça. Tu vois, du coup, c'est pas la musique de Marc ou c'est pas la musique de Ribot ou je sais pas qui. Mais tout en même temps, sans créer réellement d'école vis-à-vis de l'instrument. Parce que moi, ce qui me dérange souvent dans les... Bon, alors après, j'ai 31 balais et on en reparlera dans 30 ans. Mais ce qui me dérange quand tu crées des écoles, c'est qu'au final, les gens, ils trouvent un truc spécifique, c'est super. Mais au final, ils se créent vachement leur petit monde qui se ferme un peu. Et au bout d'un moment, bon, bah, ils connaissent les recettes et ils jouent avec les recettes. Et... Alors, je vois très bien la démarche artistique qui est derrière ça et c'est très beau. Mais par contre, moi, en tant qu'auditeur, quand j'écoute ça, bon, bah, en fait, au bout d'un moment, ça m'intéresse pas. Parce que tu connais, le monde, il est...
Il est défini.
Il est défini. Du coup, moi, je me suis dit, bon, comment je peux faire un truc qui est spécifique, mais qui, en même temps, ça crée pas une école. Et dans ce sens-là, je reparle du truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'utilise des pédales que n'importe qui peut utiliser. Tu vois, c'est aussi dans ce sens-là que je veux utiliser des choses que n'importe qui peut utiliser, parce qu'au final, bon, bah, c'est plus une école d'instruments, en fait. Ça va être surtout une école de comment tu penses les choses, comment tu les agences. Du coup, c'est un truc qui se détache du médium. Tu vois ce que je veux dire ? Le propos, il est plus d'être guitariste, en fait. Il est vraiment de dire, bon, bah voilà, moi, je fais de la musique avec les choses, je fais du son, de l'espace, tout ce que tu veux, avec les choses que j'ai maintenant, là, sous la main, et n'importe qui peut le faire, en fait. N'importe qui peut proposer son propre agencement de tout ça.
Et c'est pour ça que, dans ton solo, les sons que tu produis, si on ne sait pas que c'est de la guitare, on ne peut pas forcément le deviner.
Non. Voilà, alors après, moi, dans mon histoire personnelle, j'ai eu un rapport... Ça, voilà, j'ai eu un rapport... Il y a un moment donné, la guitare, ça me gavait, quoi. Mmh. Tu vois, j'avais plus... C'est un instrument qui me faisait chier, en fait. Parce que je préférais de loin la batterie ou le saxophone, par exemple. Tu vois, et que c'est des trucs à jouer. Et puis dans la batterie, le rythme, le côté percussif, le côté actif, où t'es tout de suite, tu tapes, t'as un son, quoi. C'est hyper simple. Ça me faisait vraiment triper. Et du coup, moi, à un moment donné, je me retrouvais avec ça. Puis j'avais tous mes potes qui jouaient des instruments qui me faisaient super triper. Et du coup, je commençais un peu à travailler la batterie. Voilà, je testais des trucs et tout ça, puis en même temps, je me suis vite rendu compte, je me dis, bon, en fait, se disperser, moi, je vais pas bosser comme ça, parce que ça me correspond pas. Du coup, je me suis recentré sur la guitare, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec, en fait? Comment je peux réouvrir cet instrument? C'est-à-dire, plus que d'avoir une pratique où tu te fermes dessus un peu comme ça, et tu bosses tes trucs, tu fais ton instrument, comment tu fais pour externaliser toutes ces fonctions, en fait, en gros? D'où, encore une fois, les pédales. J'ai vraiment, c'est pas un hasard que je choisisse un truc extérieur, un instrument pour continuer à jouer, quoi. Et du coup, le fait qu'au bout d'un moment, bon, bah voilà, la guitare, ça me branchait pas des masses, puis tous ces trucs de guitare héros, à faire des solos où t'en mets partout et tout, ça a jamais été mon grand truc, j'ai trouvé ça toujours hyper kitsch, puis avec tous les trucs de geek, parce que tu vois, la guitare, c'est un instrument de geek, quoi, t'as des mecs, ils sont là, ils font tout leur tapping, ils parlent de matos, c'est des ouf, qui est aussi un instrument qui est hyper collé au consumérisme. Enfin, tu vas à Pigalle, à Paris, maintenant, c'est plus des magasins de musique, c'est des magasins de divertissement, tu vois, et même moi, je le vois, je commande maintenant, par exemple, mes cordes de guitare sur Internet parce que l'industrie de l'instrument a tellement calibré leurs ventes vis-à-vis du divertissement que tu n'as plus de cordes dures pour les guitares. Tu en as moins parce que du coup, tu mets des cordes souples parce que normalement, tu peux jouer plus vite. Du coup, la guitare, c'est aussi cet instrument-là. Et moi, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça, en fait? Tu vois, qu'est-ce que l'instrument dans son ensemble? Mais au final, ce côté divertissant de la guitare, je l'aime bien parce que c'est aussi pour tout le monde. Du coup, c'est aussi la chose qui peut faire que tu sors de cette école, tu vois. Comme du coup, c'est partagé par tout le monde, c'est populaire, qu'on fait des trucs que tout le monde peut avoir. Bon, bah c'est cool, faisons des trucs avec tout le monde peut avoir. Mais comment ça se fait qu'une fois que tu fais des trucs avec tout le monde peut avoir, bah tout le monde fait pas la même chose. C'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi.
L'instrument, tu le martyrises un peu, tu le tords, tu le tapes.
Ouais.
Et ce que tu fais dans ton solo, est-ce que tu pourrais le faire avec n'importe quelle guitare?
Non. Enfin, ouais, mais il y en a qui risqueraient de casser. Non, bah, là, moi je joue sur. Bah, tiens, on va faire un peu le côté guitare alors là. Moi je joue sur une Stratocaster, c'est des premières guitares électriques de ce type-là qui ont été inventées.
Ça date de quelle année, ces guitares-là?
pense, je ne suis pas un expert, mais je pense début des années 50.
Début des années 50, ouais. Ah oui.
Et le mec qui a inventé cette guitare, ce n'est pas du tout un musicien. Ce n'est pas du tout un guitariste ou un luthier ou je ne sais pas quoi. C'est un mec qui faisait de l'électronique, quoi. Léo Fender, c'est... lui, son délire, c'était de souder des trucs. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une guitare comme ça. Du coup, c'est une guitare hyper solide dans le sens où c'est une planche de bois, en fait. Imagine une planche rectangulaire, du bois hyper dense. Voilà, de l'érable, de l'ébène, des machins. Tu découpes dedans une guitare, tu mets trois micros, et vas-y, ça roule, quoi. C'est la guitare les plus simples du monde, et du coup, c'est aussi les plus solides. Tandis que si je prenais une guitare de luthier, où le bois, il est méticuleusement choisi, tu vois, vraiment, on va dire, des masterpieces, quoi, des trucs, bah, c'est moins solide. Du coup, j'aurais peur de les casser, je pense que je les casserais en plus au bout d'un moment. Et je le ferai pas forcément. Du coup, non, je peux pas faire ça avec toutes les guitares. Enfin, je peux, mais sous risque de les péter.
D'accord. Ok. Et, ah tiens, j'ai une dernière question. Pourquoi ça s'appelle Acapulco ?
Parce que j'aime bien le Mexique, c'était un gros truc de blague avec pas mal de potes, un peu aïe aïe aïe, quoi. Mais après, au-delà de la blague, Acapulco, je trouvais que c'était un nom qui pouvait devenir quelque chose, qui pouvait devenir le nom d'une pratique. Tu vois, du coup, cette pratique un peu guitare externalisée, machin, les pédales, tous les trucs dont je parle depuis tout à l'heure, je me suis dit ça pourrait être intéressant de trouver un nom qui fait, où on n'a pas l'impression que c'est un truc théorique ou un truc comme ça, tu vois. Je trouve que ça correspondait pas mal. Et en plus, encore une fois, c'était pour dire à qui tu t'adresses. Tu vois, dans le sens, dans la musique improvisée, ce qui est courant de faire, c'est de dire, bon, bah, je fais un solo et ça va s'appeler Julien Després Solo. Je pense que quand tu fais un truc comme ça, bon, bah, voilà, tu t'adresses à un milieu, le milieu de la musique improvisée, les gens qui te connaissent, les machins comme ça. Tandis que l'idée aussi de prendre Acapulco par rapport à toute cette musique un peu bruiteuse, bah, c'est comme pour le Brazil Mashup, en fait. C'est de déplacer l'image, c'est de déplacer le point de rapport, en fait. Du coup, tu vois, j'ai même vendu des disques à des mecs qui écoutent de la salsa, parce qu'ils ont vu le vinyle d'Acapulco, ils ont dit « Ah putain, la pochette, elle est super, Acapulco, oh, ça doit danser, allez, je le prends. » Et au final, les gens, ils rentrent chez eux, ils remettent le vinyle, et moi, j'ai reçu des mails, ils font « Putain, wow. » Et donc, ton truc, je m'attendais à danser. Et du coup, ça permet cette chose-là, en fait. Encore une fois, c'est que le nom, bon, bah, il élargit les personnes auxquelles tu t'adresses, en fait. Tu vois. Et par exemple, tu vois, même j'ai joué dans un festival qui s'appelle Baignade Interdite, qui est près de Toulouse, et là, c'est un festival, ils appellent... Il y a du noise, il y a de la variette, du rock, de la musique contemporaine, c'est hyper vaste et varié. Faut pas se leurrer, ce qui ramenait le plus de monde, c'était quand même tous les trucs variétés. Et du coup, comme ça s'appelait Acapulco, ils sont là, putain, c'est un nom fun, ils sont tous venus voir. Et du coup, tu te retrouves à jouer devant des gens, rien que de par le nom, qui seraient jamais arrivés à cette musique si j'avais fait un peu comme le truc lambda en appelant ça machin truc solo, quoi. Ou si j'avais donné un truc non hyper théorique, genre le monde plat, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais. Et puis c'était l'idée, c'est d'avoir un truc un peu fun aussi, un truc qui dit à un moment « ça va, on se prend pas au sérieux ». Ce qu'on fait, c'est peut-être sérieux, mais en fait, on peut le faire de manière décontractée, détendue. On n'est pas… ouais, en fait, voilà, juste que ça soit un peu plus fun. De casser un peu le truc aussi très processionnel, un peu de la musique improvisée, tu vois, où des fois tu tombes et c'est carrément cérémonial avant de commencer, tu vois, le silence et tout ça. Ça veut pas dire que des fois, je le fais pas, hein. Tu vois, des fois, je le fais, je viens quand même de ce truc-là. Mais encore une fois, quand tu crées un nouveau point de rapport, bah, les choses, elles sont différentes, en fait. Et je crois que c'est surtout ça qui m'intéressait.
Merci.
Ouais, de rien.
Moi, j'ai une petite dernière question. C'est quoi, du coup, ton parcours, ce que tu dis que tu viens d'habiller le prolétaire ? C'est quoi, c'est une école d'art ?
Alors non, moi, j'ai commencé la musique, j'avais 16 ans. Je faisais de la guitare en bas de mon bâtiment avec mes potes. Enfin, des potes jouaient de la guitare. Moi, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et au final, je suis tombé dessus, ça m'a fait triper. Je suis arrivé au lycée, je me faisais vraiment chier au lycée. Enfin voilà, le cursus, on va dire, de l'école, l'éducation nationale, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'ai commencé la guitare et je me suis dit, tiens, mais je pourrais peut-être faire de la lutherie, ça a l'air sympa. Et en seconde, plutôt que de redoubler, eh ben, je me suis dit, je vais faire une formation de luthier. Du coup, je suis allé à Mirecourt, parce qu'il y a une école de lutherie là-bas dans les Vosges. Et ils m'ont dit, ok, tu peux venir, mais il faut que tu trouves un maître de stage. Tu vois, il fallait que je sois apprenti quelque part. Tous les luthiers m'ont dit, non, nous, on peut pas te prendre, tu sais rien faire de tes mains, on n'a pas assez d'argent, il faut que tu fasses un CAP d'ébéniste. Du coup, je suis allé et j'ai fait un CAP d'ébéniste. En parallèle, je suis rentré au conservatoire de hier, avec des gens, parce que j'avais rencontré des gens qui étaient là-bas et c'était l'endroit où, en fait, je pouvais jouer avec des gens, quoi. C'est surtout pour ça que j'y étais allé, au-delà du truc de l'école. Et du coup, là-bas, il y avait un département de jazz où tu avais 3 heures de cours de musique improvisée par semaine et puis 3 heures d'atelier de jazz, des cours d'instruments, des machins comme ça. Où d'emblée, en fait, moi, là, j'ai eu de la chance, je suis vraiment tombé sur une super école, je suis tombé sur Patricio Villarroel, super pianiste qui donnait les cours de batterie là-bas et les cours de musique improvisée, où d'emblée, le discours, il te disait « Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire au-delà de tout ce qui existe? Comment tu t'appropries les choses ?» Tu vois, on en revient encore à ce truc-là. Et du coup, j'étais à fond là-dedans, et puis en parallèle, je faisais le CAP d'ébéniste. Mais comme je sortais de seconde, j'avais pas besoin d'aller aux enseignements généraux, en fait, du CAP, qui était un peu le niveau de sixième. Du coup, en fait, tout le reste du temps, j'étais au conservatoire. Quand j'ai passé à le CAP, j'ai bossé quelques mois en atelier d'ébénisterie, et puis en fait, je me suis dit, mais je fais n'importe quoi, en fait, je vais faire de la musique. Et là, j'ai tout stoppé. Et voilà, j'ai commencé à faire de la musique. Après, quand je dis que je viens de mes parents, c'est des prolos, voilà, ma mère, elle bosse à la Sécu, mon père, il était plombier. Je dis ça, en fait, c'est pas que je veux le montrer, dire ah, attention, je viens de je sais pas quoi, d'un milieu pauvre. En plus, je viens pas du tout d'un milieu pauvre, hein, prolo veut pas, mais pas riche non plus, on va dire middle class, quoi. Mais c'est juste pour rappeler qu'en fait, c'est des musiques qu'on les classe toujours dans les trucs élitistes. Mais c'est juste pour rappeler qu'en fait, moi, je viens pas du tout d'un truc, je viens pas de l'élite, en fait. Et ce qui m'intéresse en plus, c'est pas du tout d'aller vers un milieu élitiste, c'est justement que les choses, elles restent parmi toutes les choses, quoi.
Dans le monde.
Dans le monde, exactement.